quelque sorte de grâce, de générosité qui amenait vraiment à payer de soi-même sans être récompensé au bout, en quelque sorte. Ça, c'était quelque chose que l'autre ne voulait plus, ne voulait pas accepter. Tant qu'il s'agissait de simplement avoir un champ, ça allait. Mais s'il y avait le mariage qui était associé à ce champ, et alors avec un Moabite, et j'imagine un petit peu que le plus proche parent s'est tourné vers les 10 hommes qui étaient les anciens de la cité, il leur dit, vous êtes d'accord, hein, sous-entendu, elle est Moabite, hein, sur quel terrain je m'engage là, hein. Ah ouais, d'accord. Et pendant ce temps, Boz se frottait les mains du cœur, hein. Parce qu'il pensait à Ruth dont le cœur battait la chamade, hein. Elle était peut-être assise là dans sa maison à côté de Naomi, et puis il lorgnait par la fenêtre en disant « Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Et alors vous avez la suite, hein. La suite est fantastique. Verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou un échange, l'un ôtait son soulier, le donnait à l'autre. Ce qui servait de témoignage en Israël, celui qui avait le droit de rachat, dit donc à Boz, acquis pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boz dit aux anciens, à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Et j'aime, j'y ai beaucoup pensé hier matin, cette expression « j'ai acquis ». Je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Vous ne croyez pas l'unité des Écritures? Notre frère hier matin, Daniel, a développé le thème « vous êtes un peuple acquis ». Si nous voulons savoir ce que c'est qu'un peuple acquis, sans faire de la haute voltige théologique, ce que notre frère n'a pas fait hier matin, allez voir dans le livre de Ruth, vous avez la plus belle illustration de ce que c'est que l'acquisition de la grâce. Ce moment où la loi s'efface devant la grâce. La grâce de Dieu. Comment Boz accueille cette femme, en principe en quelque sorte maudite, avec amour, lui donne un héritage, va la rendre féconde, va l'intégrer pleinement à Israël. Le triomphe de la grâce qui accomplit ce que la loi ne pouvait pas faire. Ces 10 personnages, certains ont vu dans ces 10 personnages les 10 commandements de la loi. Boz qui respecte d'abord la loi, il dit, ah, il y a un plus proche parent. Mais la Bible nous dit que même si la loi est bonne, elle est impuissante. La loi ne peut pas nous racheter. Il fallait un homme du calibre de Boz, prêt au sacrifice de la grâce, parce que la grâce, ça a coûté au Seigneur, le triomphe de la grâce. Et puis une image extraordinaire, la nouvelle naissance, mes amis, la nouvelle naissance, un mariage d'amour, où l'on devient de surcroît propriétaire en indivision. La loi, la grâce, il y aurait tant de choses à dire. C'était le thème d'un de nos camps, dans Colossiens, où nous avions parlé du rôle de la loi et comment la loi amène à la grâce. Mais quelle démonstration! Je dois m'arrêter là. Nous verrons demain matin ce merveilleux 4e R et la conclusion. Mais je suis heureux dans le fond que nous terminions là ce matin. En soulignant donc que pour Naomi, Bethléem n'a pas été un lieu de reproche. Bethléem a été un lieu de délivrance, de restauration, d'accueil, parce que le sang de l'agneau pascal l'attendait depuis 10 ans. À la croix, en quelque sorte, il y avait rendez-vous pour Naomi avec la guérison, parce que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie « Vengeance, vengeance !» Le sang de Jésus-Christ crie « Pardon, pardon !» Et je vous laisse ce début du chapitre 14, Israël. Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et le mot compassion, là, c'est le troisième des trois mots du livre d'Osée qui peuvent être traduits par amour en français. Les trois mots de la famille de l'amour. Nous avons vu la recette, la loyauté de l'amour. Nous avons vu, je cesserai de les aimer, d'avoir de l'affection. Et ici, il est question de la compassion. La compassion qu'un père a vis-à-vis de ses enfants. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et alors vous avez ce verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je réparerai. Nous parlerons demain matin, avant la conclusion de la réparation qui fait partie du programme du retour. Réparer. Mais Dieu répare. Dieu est le grand réparateur. Une fillette demandait à sa maman, que fait Dieu toute la journée? Et la maman répond, tu sais, ma chérie, c'est une question difficile, je ne sais pas. Mais il me semble que Dieu doit passer son temps à réparer ce que nous gâtons. Mes amis, c'est la vocation de Dieu en Jésus-Christ. D'être le réparateur de nos casses. Combien de choses nous gâtons, que Dieu vient pour réparer dans le processus du réveil. Nous pouvons bénir Dieu d'être au bénéfice de son pardon. Moi, j'ai envie d'exploser de joie quand je pense à la qualité du pardon de Dieu. Un des hommes de Dieu, commentateurs les plus remarquables, nous avons quelques commentaires de lui, Meyer a dit ceci, comme la mer avide cherche le long des récifs une ouverture dans laquelle se jeter et qu'elle bouillonne jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée, ainsi l'amour de Dieu attend impatiemment à l'extérieur de notre cœur jusqu'à ce que nous l'ouvrions à la confession et à la repentance. Dieu pardonne ensuite, non chichement et à contre-cœur, mais royalement, abondamment, gracieusement. Son pardon est digne de sa personne, proportionné aux ressources de son être glorieux et selon les richesses de sa grâce. Il fait plus que pardonner. Il oublie. Il fait plus qu'oublier. Il fait sonner le carillon de la fête. Il fait encore plus que cela. Il incruste des joyaux dans les cicatrices de nos péchés. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Et tout cela à cause du sang qui a libéré cette abondance de miséricorde. Combien cela est bon. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Merci pour cette pépite d'or, ce diamant aux multiples facettes que tu nous accordes en nous donnant ce petit livre de Ruth, qui concrétise d'une manière si parfaitement compréhensible ce message de la rédemption, du rachat, de la grâce surabondante qui fait ce que la loi est incapable d'accomplir. Nous te bénissons pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu accomplir toute la loi de manière à pouvoir nous faire grâce. Nous faire grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour le Goël par excellence, le racheteur. Celui qui fait de moi le membre d'un peuple acquis, qui me rend fécond. Seigneur, merci. Ce matin, nous voulons t'adorer. Et je te prie avec mes bien-aimés pour que nul d'entre nous ne se prive de cette grâce-là. Alors que nous arrivons à la fin de ce camp, oh, que nous repartions les uns et les autres, non pas sous notre cloche de verre, mais ayant été visités par toi et par ton Bose, riche en tout, puissant, plein de force, rempli du tact de l'amour et de grâce. C'est en son nom que nous venons de te prier. Amen.
Nous ouvrons le livre de Ruth au chapitre 1er pour lire ensemble les 7 premiers versets. Ruth chapitre 1er, versets 1 à 7. Après quoi, nous irons à la fin du livre de Ruth au chapitre 4. Où nous lirons les versets 13 à 17. Je lis donc au chapitre 1er, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi !» Et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Nous arrivons donc à la dernière de ces 10 étapes dans notre réflexion sur deux livres, en fait, l'un servant d'appui, incarné, pénétré d'histoire, cette petite idylle en terre de Bethléem, ce beau petit livre de Ruth, mais que nous avons volontairement mis sous le même joug qu'un autre livre de la Bible, livre prophétique, beau livre prophétique, le livre d'Osée, de manière à découvrir l'unité des Écritures dans cette comparaison entre deux livres de l'Ancien Testament apparemment si différents l'un de l'autre. Nous avons vu tout d'abord le drame de cette petite famille, Élimélec, Naomi, Maclon et Kilion, qui, sous la pression des circonstances, d'une crise certes économique, mais qui était sous-jacente d'une crise d'ordre spirituel, comme c'est le cas de notre temps et dans nos pays, nous avons vu cette famille quitter Bethléem pour se rendre en Moab. Et après avoir été tenté d'applaudir et de nous incliner devant la supposée sagesse d'Élimélec dans ce choix stratégique et difficile, nous avons finalement, à l'écoute des Écritures, déchiré nos cœurs, en constatant qu'Élimélec était avec les siens entré dans un processus de recul, de vie rétrograde, voulant certes séjourner en terre moabite, mais finalement s'y installant, y demeurant et y mourant. Et nous avons vu ainsi trois tombes se creuser dans cette terre païenne, sous le regard bouleversé, brisé, rempli de larmes, d'une veuve de plus en plus solitaire. Nous nous sommes penchés, et dimanche dernier, nous étions en cours de route avec ceux et celles qui étaient parmi nous, nous nous sommes penchés sur ce processus de la vie rétrograde, sur ces quatre dimensions d'un territoire stratégique que l'ennemi nous pousse absolument à tout prix à quitter. Nous avons vu que ces quatre dimensions du territoire qui est notre lieu en Christ en tant qu'enfant de Dieu s'appellent tout d'abord Bethléem, la maison du pain. Nous avons vu que toute vie rétrograde consiste d'abord et avant tout en une sorte de désamarrage, de désancrage par rapport à une juste relation d'intimité, de communion, de partage, de connaissance avec Jésus-Christ. Et puis nous avons vu comment, à partir de cette rupture dans notre relation avec Jésus-Christ, immanquablement, les trois autres dimensions de ce territoire sacré étaient touchées à leur tour. Ephrata, pleine de fruits, fécondité. C'était là le thème de notre réflexion dimanche dernier. Quitter Jésus-Christ, c'est quitter la fécondité, c'est quitter la plénitude, c'est s'installer dans la stérilité. L'odeur de mort rôde autour de la vie de cette femme apparemment de plus en plus désemparée. Et puis au-delà, en début de semaine dernière, nous avons vu que quitter Bethléem, c'est quitter Ephrata, mais c'est aussi quitter Judas. Judas, qu'il soit loué, qu'il soit célébré. La terre de la louange, la terre de la célébration de Dieu, la terre de la vie de prière. Et c'est vrai que la vie rétrograde étiole ce caractère pointu
de notre vie de prière. Ôte toute envie de célébrer, de bénir Dieu, de partager avec lui. Nous avons lu cette semaine deux psaumes qui étaient tellement complémentaires, n'est-ce pas, ces juifs en exil à Babylone et auxquels leur geôlier demander des chants. Mais comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Cela nous est impossible. Et puis nous avons vu ensuite ce retour d'exil et ces chants de joie et d'allégresse. Nous étions comme ceux qui font un rêve quand nous sommes rentrés d'exil. Et puis enfin, nous avons vu que Bethléem, Ephrata, Juda, tout cela, c'était le domaine d'Israël, la terre d'Israël. Israël qui signifie « il lutte avec Dieu », qui rappelle ce terrible et pourtant si beau guet de Jabok, cette nuit douloureuse mais tournant stratégique dans la vie d'un autre homme des Écritures, Jacob, qui lutta avec Dieu et qui changea de nom. Et nous avons vu que celui qui devient rétrograde cesse de lutter. Il cesse de lutter avec Dieu, il cesse de lutter pour Dieu. Ce n'est plus un lutteur, ce n'est plus un vainqueur, c'est un installé, plus préoccupé des lambris à poser dans les chambres de sa maison que des poutres à dresser dans la construction du sanctuaire de l'Éternel. C'était là le début du livre d'Agé que nous avons commenté. Et nous avons vu que le rétrograde ne lutte plus sur la terre des promesses de l'Éternel, parce qu'Israël, c'est d'une manière particulière la terre des révélations de l'Éternel. Et le rétrograde est hélas un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui n'est plus passionnée de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu s'ouvre pour lui, c'est pour entendre par le Saint-Esprit un message qui revient de manière lancinante. Reviens, reviens, reviens vers moi. Et puis nous avons vu dans un dernier temps, dans ce processus de la vie rétrograde, qu'Israël est aussi la terre de l'Assemblée de l'Éternel et que le drame d'Élimélec et de sa famille, c'est de s'être dissocié de l'Assemblée de l'Éternel. Et le rétrograde est quelqu'un qui se tient à l'écart parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Oh, il peut avoir encore une vie d'église formaliste, mais en réalité, il n'est plus véritablement uni à l'église locale. Il ne combat plus avec elle, il n'est plus solidaire de ses luttes et de ses joies. C'était là le contenu de nos 5 premières études. Et puis nous sommes entrés dans le processus du réveil. Nous avons été conviés à cheminer aux côtés de la veuve de Naomi, dans son retour vers Bethléem. Et nous avons remarqué ensemble tout d'abord que le réveil consiste à reconnaître une situation. Nous avons été frappés par l'intégrité de cœur, par la droiture, par la limpidité, par la transparence du témoignage de Naomi. Elle n'a pas essayé de bluffer. Elle n'a pas essayé de laisser croire qu'après tout, en Moab, tout s'était bien passé. Et qu'il y aurait même lieu d'organiser une réunion dans l'assemblée de Bethléem pour passer des diapos sur son temps vécu en terre moabite, loin de là. Elle confesse sa situation, son affliction, son changement de nom. Elle reconnaît son vide. Et nous avons beaucoup insisté durant 2 études sur cette dimension parce qu'elle est fondamentale. Et nous avons vu comment nous sommes enfants de Dieu, quel que soit, je dirais, notre âge spirituel, tentés de tricher dans ce domaine de la reconnaissance. Combien nous sommes tentés de chercher des excuses, de remplacer nos péchés par des faiblesses, d'ajouter dans nos confessions des petits mots qui ne devraient jamais s'y trouver. J'ai peut-être eu tort. Ou c'est mon caractère. Ou c'est lui qui a commencé. Et nous avons passé toute une matinée à voir tous ces processus qui existent là, tapis, dans notre vieille nature et qui ne demandent qu'à fonctionner. La manière dont l'ennemi nous titille, n'est-ce pas, pour nous conduire à reconnaître en apparence à cause de notre orgueil. Et nous l'avons dit, je le redis ce matin dans cette conclusion, dans chacun des éléments qui forment ce processus du réveil, l'ennemi va essayer de caricaturer l'étape en cours, de manière à ce que ce réveil individuel avorte. De manière à ce qu'on s'installe dans une sorte d'illusion du réveil. Nous avons ainsi dit que certains même reconnaissent apparemment sans problème, n'ont apparemment aucune peine à vivre dans une certaine nudité de l'âme. Mais leur problème, c'est qu'ils s'y installent. C'est qu'ils vivent une sorte de jouissance psychologique. À dire, mais moi, oui, c'est vrai, je suis un pauvre type, je le reconnais. Voilà ce que j'ai fait. Et il s'installe dans cette attitude, et il semble se satisfaire de cette attitude. Alors que, dans les Écritures et dans l'histoire de Naomi, non seulement elle a reconnu, parce qu'elle aurait pu vivre de ce verbe tout en demeurant en Moab, elle aurait pu organiser des réunions de prière pour le réveil en Moab, elle aurait pu prier pendant des années et des années en Moab pour le réveil, et comme Élimélec, mourir en Moab. Et c'est pour cela que nous l'avons lu tout à l'heure, dans ces versets 6 et 7, ces quatre verbes, cette densité, cette concentration volontaire de verbes inscrits sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous indiquer qu'il n'est pas de réveil dans lequel reconnaître ne soit associé à rompre. Quatre verbes qui indiquent une rupture. Une rupture. Elle a rompu. Et après avoir développé ce thème de la rupture, nous avons vu qu'il importe là aussi que nous n'ayons pas la religion de la rupture. Parce qu'il existe des enfants de Dieu, des églises évangéliques, des mouvements évangéliques même, qui vivent le culte de la rupture. Une sorte de christianisme très agressif, griffe ouverte, parce qu'en réalité enfermé dans un ghetto, dans le ghetto de la rupture. On vit une sanctification pétrie de peur, d'angoisse. Et on s'installe très souvent dans le légalisme et dans tous les fruits amers du légalisme. C'est pourquoi nous avons ouvert avec joie la porte au troisième R du réveil. Qu'est-ce qui m'aide à rompre? Quel est le moteur de mes ruptures? Qu'est-ce qui fait que mes ruptures ne sont pas simplement les ruptures d'une forte volonté propre, mais des ruptures de la grâce? C'est que je sais que quelqu'un m'attend de l'autre côté. La porte du côté du Père n'est pas fermée. Je romps parce que je sais que je peux revenir. Parce que j'ai un rendez-vous. Et nous avons vu comment, dans cette histoire de Ruth, dans ces versets 6 et 7 précisément, le moteur de la rupture de Naomi, c'est qu'elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Voilà le moteur de sa rupture. Dieu est un Dieu qui avait visité Bethléem. Le réveil était passé par là, dans la cité de Bethléem. Elle savait qu'il y avait des cœurs ouverts, des portes ouvertes, et que Dieu, par-dessus tout, l'attendait pour la relever et pour la restaurer. Mais là aussi, nous avons beaucoup insisté une fois de plus pour souligner qu'il est des vrais retours, mais aussi qu'il est des faux retours. Nous avons lu un certain nombre de passages, et dans le livre d'Osée, mais aussi dans toute une série d'autres prophètes, pour découvrir le peuple d'Israël qui faisait semblant de revenir, qui revenait en apparence, au point que Osée, nous l'avons lu, ce verset disait dans Osée 7,16, ils reviennent, oui, ils reviennent, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc faussé. C'est pourquoi nous avons insisté sur le fait que le réveil est toujours un retour dans trois dimensions dans les Écritures. Naomi est revenue, comme Josias, à l'Éternel, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et elle est revenue dans trois domaines. Tout d'abord, nous avons dit qu'elle est bien sûr revenue à Bethléem. À Bethléem, Ephrata, elle est revenue, dirions-nous aujourd'hui, à Jésus-Christ. Et le réveil est toujours un retour à la personne de Jésus-Christ. Et bien que, apparemment, ce soit là une banalité, nous avons cru bon de voir insister. Parce que nous sommes toujours tentés, sous l'influence de la puissance des ténèbres, et dans notre cœur porté vers les œuvres de la chair, vers les œuvres méritoires, nous sommes toujours tentés de revenir d'abord aux réunions de prière, de revenir d'abord à plus de libéralité, de revenir d'abord à plus d'évangélisation, de revenir d'abord à davantage de lecture de la Bible, parce que nous sommes des marchandeurs. Nous sommes des Phéniciens, des Cananéens, comme dit le livre d'Osée. Nous aimons marchander le réveil avec Dieu. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le réveil n'est pas une œuvre méritoire. Dieu ne veut pas que nous puissions ensuite proclamer par mons et par vos, voilà, vous voyez, moi, je suis un homme réveillé. Regardez ma légion d'honneur. Le réveil, c'est un humble retour à la personne que l'on a quitté, au Seigneur Jésus lui-même. Et nous avons beaucoup insisté pour montrer qu'il s'agissait de revenir à la grâce qui relève et non à la loi qui condamne. Nous avons vu comment le fils prodigue n'est pas revenu vers le frère aîné. Heureusement que le chemin du fils prodigue ne croisait pas le chemin du frère aîné. Heureusement que Jésus-Christ s'est arrangé dans la parabole pour que le chemin mène directement au Père aimant qui attendait. Deuxièmement, dans ce processus du retour, Naomi est revenue à un événement. Le texte dit, verset 22, « Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Et nous savons par un certain nombre de textes, des premiers livres de la Bible, notamment du Lévitique, de l'Exode, du Deutéronome, que le commencement de la moisson des orges, c'était aussi là les préparatifs de la Pâque juive, de la fête des prémices qui la suivait directement. Et nous savons que toutes ces fêtes annonçaient la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi pu constater que pendant 10 ans, Naomi, rétrograde, s'était privée de l'axe central de notre vie en Christ, à savoir de la croix. Et nous avons, hier matin, évoqué la croix. La croix, le lieu où le péché de l'homme est exposé dans toute son horreur. La croix aussi,
le lieu où la grâce de Dieu éclate dans sa perfection. Et nous avons terminé hier matin en découvrant ensemble, avec nos amis du camp famille, que le cœur du livre de Ruth, le noyau atomique du livre de Ruth, mais aussi des Écritures, c'est la grâce qui rachète, qui accomplit ce que la loi ne peut pas faire. Nous avons découvert ces 20 mentions du rédempteur, du racheteur. Et nous sommes allés aux côtés de Naomi et de Ruth dans ces chapitres 3 et 4 du livre de Ruth. Nous avons vu Ruth dans la vallée, dans l'obscurité, le cœur battant dans sa rencontre avec Boaz, dans la nuit de l'air à blé. Nous l'avons vu dans la tente à la maison aux côtés de Naomi, pendant que Boaz se livrait aux tractations avec celui qui était le Goël, le racheteur, le rédempteur, celui qui avait droit de rédemption, droit de rachat, qui pouvait bouleverser toute cette situation, ramener la fécondité. Et nous avons vu cette cérémonie du chapitre 4 qui était extraordinaire. Et nous avons terminé dans cette merveilleuse pensée que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Là où le sang d'Abel criait « Vengeance, vengeance !» Le sang de l'aspersion crie « Pardon, pardon !» Certains se sont inquiétés à la fin de l'étude hier matin, pensant avoir manqué la troisième dimension du retour. Elle était pour ce matin, c'est elle qui nous permettra de déboucher tout à l'heure sur le quatrième air, très court, qui sera en même temps notre conclusion. Ainsi, la joie de l'Éternel sera notre force, à nous aussi. Et après les larmes de l'humiliation, viendront aussi les larmes de la reconnaissance. Quelle est la troisième dimension du retour de Naomi? Nous l'avons vu revenir à Bethléem. Pour nous, cela annonce la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons vu revenir au commencement d'une moisson, avec tout ce remue-ménage autour de la fête de la Pâque juive pour nous. Cela annonce la croix, suivie de la résurrection. Mais nous la voyons aussi revenir vers une famille. À l'entrée de la cité, les femmes sont en ébullition. On regarde, on scrute, on s'interroge, on interroge. On essaye de lire sur ce visage, on est ému. Il y a le retour vers une famille que l'on a quittée. Le retour vers le prochain. Des relations horizontales doivent être rétablies. C'est intéressant dans le Nouveau Testament, dans l'histoire du fils prodigue. Luc 15, 21. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel et contre toi. Et ça, c'est un des grands messages des Écritures. Nous avons vu que la vie rétrograde amène avec elle non seulement des dégâts dans notre propre vie personnelle, mais elle engendre des dégâts dans la vie de notre entourage, parfois dans la vie du conjoint, parfois dans la vie de nos enfants, souvent dans la vie de ceux qui sont faibles, fragiles, nouveau-nés, dans la vie de notre église locale, et puis au-delà, dans nos relations avec d'autres, dans le cadre de notre vie professionnelle, de nos loisirs, de notre quartier, de notre immeuble, il y a des répercussions. Nous l'avons vu chez Naomi et Elimelech, puisque Maclon et Kilion ont fait deux mariages qui étaient des mariages entre lumière et ténèbres. Le réveil signifie donc aussi réparation.
Dans ce retour, il y a réparation. Dans ce retour, on entre dans un processus de réconciliation, qui doit être une conséquence du pardon et qui peut prendre parfois beaucoup de temps. Mais cela fait partie dans les Écritures de ce processus du réveil. En voulez-vous un exemple tangible, concret, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie. Prophète Malachie, des versets que nous connaissons bien. L'un d'entre eux a même été mis en musique, mais le contexte a été évacué parce que, bien sûr, on a choisi de mettre un seul verset en musique. Et c'est un verset que l'on aime beaucoup. Il est porteur de promesses, n'est-ce pas ? On a même ajouté parfois une liaison malte à propos, comme si c'était encore plus riche en mettant un S là où il ne le fallait pas, n'est-ce pas ? Mettez-moi ça à l'épreuve, hein ? Ça fait mieux, ça fait plus fort, ça fait plus riche, mais ça marche pas. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais s'il y a un contexte, alors nous allons lire ce contexte. Et en fait, ce contexte commence dès le chapitre 1er de Malachie, au verset 12 à 14. Lorsqu'il est dit déjà au verset 11, « Grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, « La table de l'Éternel est souillée, ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites, « Oh, quelle fatigue !» Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mais nous l'avons vu, c'était l'aurore de notre série d'études. Quand Dieu n'est plus roi, chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est pourquoi, dans la conclusion de ce livre de Malachie, au chapitre 3 et à partir du verset 17, pardon, il est dit ceci, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai. » Vous voyez toujours ce même langage, cette unité des Écritures partout. La pensée de Dieu s'inscrit dans le même langage. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Alors, comme ils ont une face impudente, n'est-ce pas ? Comme ils vivent dans l'impolitesse de la vie rétrograde, dans une sorte de mépris facile, ils interrogent, en sous-entendant déjà la réponse, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, mais en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Alors le retour, qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, dans le retour, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Les écluses des cieux s'étaient fermées. Mais vous verrez si vous revenez, et si vous revenez de la bonne manière, en réparant. Eh bien, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est le début du livre du prophète Joël, n'est-ce pas, avec cette invasion terrifiante de sauterelles qui détruit tout sur son passage. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Souvent, dans nos vies rétrogrades, Dieu a été volé. Dieu a été lésé. C'est vrai qu'on ne peut pas consacrer
au Seigneur ce qu'on utilise pour lambrisser sa maison.
C'est vrai, c'est certain. Revenir à lui, c'est changer concrètement d'attitude.
Et cela peut parfois se traduire par un appel à des restitutions. Dans un certain nombre de réveils personnels connus dans ma propre vie, et parfois bien des années après, lorsque véritablement le Saint-Esprit a touché mon cœur en profondeur, il m'a aussi rappelé qu'il y avait des restitutions à faire. Et ce qui m'était apparu comme peccadille, subitement, dans ma conscience travaillée par le Saint-Esprit, devenait comme ces petits nuages, pourtant si petits, mais qui dans le ciel font parfois chuter la température et voilent la face du soleil d'en haut.
Je pense à ce réveil du Pays de Galles. Je vous en entretenais au début de la série d'études en 1904, un lundi soir, lors de cette petite réunion extra, après le culte officiel, à laquelle participaient quelques 17 personnes seulement. Evan Roberts s'adressa à ce petit groupe et il leur parla simplement en ces termes. « J'ai un message de Dieu pour vous. Vous devez confesser à Dieu tous les péchés dont vous avez connaissance. » Et réparer le mal commis à autrui. Deuxièmement, vous devez vous défaire de toute habitude douteuse. Troisièmement, vous devez obéir avec promptitude au Saint-Esprit. Enfin, vous devez témoigner ouvertement de votre foi en Christ. Nous ajouterons quelque chose, mais nous le dirons tout à l'heure. Mais c'est là le cœur du réveil dans nos vies. Parce que c'est là le message des Écritures. Je me souviendrai toute ma vie d'une série de conférences que je donnais en 1974 dans l'île de Jersey, dans une de ces îles anglo-normandes, et dans une magnifique grande église anglicane, mais dont le pasteur avait été, avant d'entreprendre ses études de théologie, médecin missionnaire dans l'un des pays d'Afrique noire qui a connu des années et des années de réveil ce siècle-ci, au Rwanda notamment. Et nous avions fait connaissance, cet ami et moi, il m'avait invité à venir dans cette église anglicane dans laquelle il annonçait l'évangile pour tenir une série de conférences comme celle-ci. Et l'on m'avait demandé précisément de traiter de ce thème du réveil personnel. Nous avions eu plusieurs soirées. Peu à peu, l'église s'était remplie et puis une dernière grande rencontre était prévue, dans laquelle je devais notamment traiter de ce dont nous parlons maintenant. J'ai vécu là une des plus longues réunions de mon ministère. Pourtant, je suis allé à plusieurs reprises en Afrique noire et dans d'autres pays dans lesquels on ne regarde pas sa montre. Mais je dois dire que c'est dans cette église anglicane de Saint-Hélier, cette petite capitale de Jersey, que nous avons vécu une des réunions les plus extraordinaires qui soit. Au bout d'une heure et demie de réunion, nous avons fait un petit arrêt d'un quart d'heure. Puis nous avons recommencé pour une heure et demie. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les cœurs. Quand j'ai terminé le message, spontanément, il y avait là plusieurs centaines de personnes, spontanément des dizaines de personnes se sont levées dans cette église pour aller les unes vers les autres et se demander pardon mutuellement, sans aucune honte. J'ai vu un enfant d'une douzaine d'années s'approcher dans l'allée centrale, une douzaine d'années, en larmes.
pour dire combien le Seigneur lui avait parlé.
J'étais traduit par un cher ami avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant une quinzaine d'années, qui est aux États-Unis maintenant. Et nous avions l'habitude de temps à autre de chanter ensemble, et nous avions décidé pendant toute cette série de réunions d'introduire et de conclure en chantant en duo ensemble. Il jouait de la guitare, il avait fait partie d'un trio bien connu également. Et nous étions là un peu comme bêtes, devant ces amis que nous voyons se lever, se réconcilier les uns avec les autres. Alors nous nous sommes regardés et concertés, nous avons dit, eh bien nous n'avons plus qu'une chose à faire, on va accompagner le travail de Dieu de quelques chants. Et nous avons simplement chanté, tous les deux, des chants qui allaient avec l'œuvre de Dieu. Et vous savez, les gens ne voulaient plus quitter. Ils ne voulaient plus quitter cette chapelle parce que Dieu avait visité. Et parce que le Saint-Esprit avait conduit aussi, spontanément, à la réparation. La réparation peut toucher des fautes anciennes. Nous l'avons dit cette semaine, ce n'est pas le temps qui efface les péchés, mais c'est le sang de Jésus-Christ. J'ai sous les yeux cet extrait du journal bien connu, Le Progrès de Lyon. L'extrait date du 29 janvier 1971. Voilà ce qu'écrivait le journaliste dans les colonnes de ce grand régional. Longtemps, cette commerçante de la Croix-Rousse, un des quartiers bien connus et anciens de Lyon, longtemps cette commerçante de la Croix-Rousse à Lyon se souviendra de cet homme jeune venu lui confesser qu'il était un voleur. Alors qu'elle s'apprêtait à servir ce client, entré depuis quelques instants, elle l'entendit prononcer timidement, avec une certaine gêne, des paroles qui lui parurent bien étranges. « Je viens, madame, réparer le mal que je vous ai fait. » « Le mal ?»« Oui, madame, il y a une dizaine d'années. J'avais à peine 16 ans. J'ai volé un manteau de cuir. Depuis... je suis devenu un bon chrétien. Aujourd'hui, je veux vous rembourser parce que je ne peux plus vivre avec ce poids sur ma conscience. Voici l'argent. » Je suis persuadé que Dieu s'est servi de ce témoignage dans ce quotidien profane, n'est-ce pas, pour parler à d'autres. La réparation peut toucher bien des petites fautes. J'ai sous les yeux la lettre d'un garçon âgé de 8 ans à la présidence de la République française. Authentique. À Sa Majesté, le président de la République. N'interprétez pas ce qui est écrit ici. Monsieur le président, il n'y a pas très longtemps, j'ai collé deux timbres déjà utilisés sur une enveloppe. Je ne sais pas si je l'ai fait plus de deux fois, mais je crois pas plus de trois fois. Depuis, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je vous renvoie 12 timbres, pour être bien sûr. Je vous demande de me pardonner, Votre Majesté. Et je vous promets de ne plus recommencer. Cela veut dire aussi que une vraie réparation n'est pas un calcul d'avaricieux. Je pense à ce percepteur américain qui reçut un jour une lettre anonyme dont l'expéditeur lui avouait qu'il avait fraudé dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Il en éprouvait de tels scrupules de conscience qu'il en avait perdu le sommeil. Alors il terminait sa lettre de cette manière, « Si joint $50, si après cela je n'arrive toujours pas à dormir, je vous enverrai le reste. » Dans le cadre de la loi mosaïque, il était même prévu des formes de restitution et de réparation particulières pour le cas où l'on ne puisse plus réparer auprès d'un tiers, parce que par exemple le tiers était décédé, ou dans toute autre situation où cette réparation horizontale devenait impossible.
il y a un texte très intéressant qui cache un principe dans les Écritures. Il se trouve dans Nombre au chapitre 5 et dans les versets 5 à 8. Nombre 5, versets 5 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, vous remarquez la justesse des Écritures. Je commets une infidélité contre mon prochain, mais la Bible me dit que je pêche contre l'Éternel. Et les vraies repentances, les vrais réveils dans les Écritures se sont toujours traduits par le sentiment profond de celui qui revient au Seigneur, que c'est d'abord contre le Seigneur qu'il a péché. J'ai péché contre l'Éternel, dira David, repris par Nathan. Il ne dira pas j'ai péché tout court, mais j'ai péché contre l'Éternel. Et donc que cette personne se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. C'est-à-dire il l'homologuera, on nous dit cette semaine. Il dira exactement comme Dieu et avec Dieu. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. L'inflation, dirions-nous aujourd'hui. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Et il m'est arrivé, dans mon ministère de relations d'aide, de conseiller à quelqu'un, de donner en quelque sorte directement au Seigneur ce qu'il ne pouvait plus restituer à quelqu'un parce qu'il avait vraiment le désir de le faire et qu'il ne savait pas comment faire. Je dis, mais l'œuvre du Seigneur, elle a des besoins immenses partout. Je ne veux pas que vous me le donniez à moi pour l'œuvre du Seigneur. Mais je désire que devant Dieu, simplement, vous cherchiez, réfléchissiez, vous renseigniez pour savoir là où Dieu veut que vous répariez, puisque le Saint-Esprit vous dirige dans cette direction-là. Et j'aimerais dire, avant d'en arriver rapidement à la conclusion générale, qui sera le quatrième R, j'aimerais quand même souligner que là aussi, dans ce domaine de la réparation, nous avons de gros problèmes avec notre orgueil. Notre plus gros problème, c'est l'orgueil. Nous voulons bien reconnaître, nous voulons bien rompre. Nous voulons bien revenir pour pouvoir rompre. Mais il arrive que même après avoir reconnu, nous avons de la peine à réparer. Tangiblement. J'ai parfois été vigoureusement attaqué à la suite de ce message par des personnes qui m'attendaient à la sortie. Et qui me disaient, mais je n'ai jamais vu cette question de réparation dans les Écritures. Elles étaient touchées en plein cœur. Il me souvient d'une série de conférences que je donnais en 1982 en Guyane française, à Cayenne. Il y avait tout d'abord 5 réunions d'évangélisation. Chaque soir, après la réunion, de la part de Dieu, je faisais un appel à manifester concrètement le désir de se tourner vers Jésus-Christ. Et de soir en soir, des personnes s'avançaient, je m'adressais aussi aux rétrogrades, d'une manière toute particulière, essayant d'atteindre ainsi tous les amis qui étaient là, ceux des églises et ceux et celles qu'ils avaient amenés pour cette série de conférences. Et chaque soir, notamment les rétrogrades avaient la possibilité de repartir avec ce document que j'avais confectionné spécialement pour cette série et qui contient 5 étapes d'une démarche personnelle de réveil. Avec, en regard de chacune de ces 5 démarches, une petite case que l'on pouvait cocher, ensuite la possibilité de signer, de dater, et puis enfin l'adresse et les 5 petites cases reproduites pour que celui qui recevait le talon puisse savoir quelle était la démarche, jusqu'où était allé le croyant dans sa démarche après cette série de réunions. Et donc chaque soir, des personnes venaient devant et demandaient une feuille. J'ai donc récupéré ainsi un certain nombre de talons, de jour en jour, et est arrivé la fin de l'avant-dernière réunion. J'ai examiné le contenu de tous ces talons. Et quelque chose m'a frappé. C'est que, généralement, on avait bien coché la case 1, reconnaissant avoir reculé dans ma vie de disciple de Jésus-Christ, je prends aujourd'hui devant Dieu, et grâce au travail du Saint-Esprit en moi, la décision solennelle de lui consacrer tout à nouveau mon être entier. On avait coché la case 2. Je lui demande pardon d'avoir déshonoré son nom par un mauvais témoignage. Je saisis son pardon avec confiance et reconnaissance à la croix. Mais on n'avait pas coché la case 3. On avait fait un petit saut de cabri par-dessus. Je m'engage avec sa force à réparer les torts que j'ai causés à mon prochain et à demander pardon à ceux que j'ai offensés. Et puis après, il était question de l'engagement dans l'église locale et de la possibilité d'un entretien avec un responsable de l'église pour être aidé et conseillé. Alors ce soir-là, après cette avant-dernière réunion, et en pensant à la dernière ligne droite du lendemain soir, je me suis interrogé devant Dieu. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je dois dire demain soir dans cette dernière réunion? Est-ce que je dois donner l'étude initialement prévue? Et de manière extrêmement claire, dans ce combat qui a duré un bon bout de temps dans cette dernière nuit, Dieu m'a indiqué qu'il fallait que je parle de notre problème, de l'orgueil. Ça m'était très désagréable. Et le lendemain soir, j'ai donc parlé de l'orgueil dans les Écritures, de ce qu'il engendrait, de tous les blocages qu'il crée, et de la délivrance que nous trouvons en Jésus-Christ. Et ce qui a été si beau, et qui m'émeut encore aujourd'hui, c'est que ce soir-là, j'ai bien entendu refait un appel dans les deux directions, et se sont avancés ce soir-là autant de monde que dans toutes les soirées précédentes réunies. Et des personnes sont venues me voir sur l'estrade, pour me dire, j'aimerais que vous me rendiez mon petit talon. Elles avaient envie maintenant de cocher la case 3. Et pendant qu'avec quelques conseillers, nous aidions certaines personnes, soit des rétrogrades, soit des personnes qui avaient vraiment le désir de mettre leur vie en règle avec Jésus-Christ, subitement la personne que j'étais en train de conseiller, et qui était une rétrograde qui revenait au Seigneur, m'arrête et me dit, écoutez, frère, excusez-moi, il faut que je m'arrête. Je dis, pourquoi? Mais parce qu'il y a là quelqu'un que je découvre, qui s'est avancé donc tout à l'heure en même temps que moi, c'est quelqu'un de mon quartier. C'est quelqu'un qui n'était pas au Seigneur, qui donc est en train de prendre position pour Jésus-Christ. Il faut que je voie cette personne pour lui demander pardon, parce que je me rends compte que j'ai rendu un très mauvais témoignage. Et cette personne m'a laissé là en plan. Et devant moi est allé demander pardon à l'autre, devant tout le monde, simplement parce qu'elle désirait avoir la paix de Dieu et ne pas être un obstacle dans la vie de cette autre personne qui s'était avancée. Et cette série de réunions s'est terminée de manière tellement encourageante. Nous aurions pu dire beaucoup d'autres choses dans ce thème. Revenir, c'est aussi raconter. C'est aussi partager. Partager sobrement, en pécheur gracié, afin que d'autres soient visités à leur tour, afin que nous soyons fortifiés dans notre marche nouvelle. Quelqu'un a raconté, quelqu'un a partagé. Et cela a été retenu par le Saint-Esprit pour que nous ayons le livre de Ruth entre les mains. Béni soit Dieu pour ceux qui ont su raconter, comme David et tant d'autres, non seulement leur victoire, leur bénédiction, comme on dit, leur succès, comme on dit, mais aussi leur humiliation, leur retour et la grâce de Dieu dans leur vie. Parce que c'est ce qui nous aide, n'est-ce pas, à revenir au Seigneur. Raconter, bien sûr, sans naturisme, sans nudisme, avec sobriété. Alors, quelques mots simplement pour ne pas vous tenir jusqu'à 5h moins le quart cet après-midi. Quel est le quatrième R? Il nous occupera peu de temps, parce qu'en réalité, moi je souhaite personnellement qu'il nous occupe beaucoup de temps, au-delà de ce culte. Et dans tous les temps à venir, que dit le texte de Ruth au chapitre 1er et au verset 22, nous l'avons lu. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le réveil est toujours un recommencement. Le réveil est le recommencement d'une moisson. J'aimerais souligner fortement ici que le réveil n'est pas une fin en soi. Le réveil, en réalité, n'est qu'un début. Et notre problème, c'est que trop souvent, nous avons tendance à viser le réveil pour le réveil. Seigneur, je veux bien vivre telle et telle étape, parce que j'ai envie d'avoir à nouveau une moisson, j'ai envie à nouveau d'avoir la joie, j'ai envie d'avoir à nouveau la paix, j'ai envie de toutes les conséquences. Alors le Seigneur me répond, si tu veux les conséquences, tu n'auras pas le réveil. Parce que le réveil, c'est moi. Et tout le reste, c'est ce que je donne par-dessus ma présence. Même jusque dans le recommencement, nous sommes tentés de faire des calculs. En retrouvant Bethléem, Ephrata, Naomi a retrouvé l'approbation de Dieu. Naomi a retrouvé sa bénédiction. Naomi a retrouvé le repos du cœur. Naomi a retrouvé la joie de son salut. Naomi a retrouvé la fécondité. Mais tout cela parce qu'elle était au bon endroit, dans la présence de l'Éternel. Vous avez remarqué au chapitre 4, dans les versets 13 à 17 qui forment la conclusion de l'histoire de Ruth, qui est la vedette? Est-ce que c'est Ruth? C'est cela ce qui est bouleversant. Le personnage principal de la conclusion du livre de Ruth, au-delà de David qui est annoncé au proche horizon, n'est-ce pas? C'est Naomi. Verset 16. Déjà au verset 14, les femmes dirent à Naomi: béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Et c'est Naomi qui prit l'enfant et le mit sur son sein, ce qui était un geste d'adoption. C'était un geste d'adoption. Et elle fut sa garde. Et les voisines, n'est-ce pas, de renchérir, lui donnant un nom en disant « un fils est né ». Heureusement que les relations étaient bonnes entre la belle-mère et la belle-fille. Ça aurait pu poser des problèmes. Un fils est né à Naomi. À Naomi. Le réveil. Ne laissons jamais Naomi de côté dans l'histoire de Ruth. Parce qu'en réalité, elle est un élément essentiel. Naomi est redevenue une mère spirituelle. Son témoignage a recommencé à porter du fruit. Nous l'avons dit. Tant qu'elle était en Moab, son témoignage était ambigu. Son témoignage était marqué de contradictions. Elle ne pouvait pas convaincre Ruth de manière décisive. Ruth était dans une situation difficile, un peu assise entre deux chaises, elle aussi en Moab.
parce qu'il semble qu'elle en ait eu vraiment par-dessus la tête, et qu'elle ait eu même des hauts le cœur en pensant à ces divinités moabites qui étaient si cruelles, si assoiffées de sang et de prostitution sacrée. Et elle découvrait quelque chose chez Naomi qui était totalement différent, mais en même temps elle découvrait la souffrance de Naomi. Ainsi, un œil de Ruth allait dans la direction du dieu de Naomi, mais l'autre œil était encore saisi par le paysage de son lieu d'alors. Dès que Naomi a fait le premier pas de retour vers Dieu, quelque chose a bougé dans le cœur de Ruth. Et alors, elle s'est décidée. Alors, elle a compris que Naomi était vraiment convaincue et que l'Éternel valait la peine d'être suivi. C'est l'Éternel, c'est certainement en partie l'ardeur de Naomi à rompre avec le péché qui a conduit Ruth à la décision du salut. Toute l'histoire de Ruth est le fruit du réveil de Naomi. C'est pourquoi j'aime à dire que le livre de Ruth, c'est le livre du réveil à l'éveil. De même que le réveil de Naomi a été le fruit du réveil de Bethléem, le réveil de Naomi a engendré l'éveil de Ruth à la vie nouvelle. Voilà comment le réveil fait boule de neige. Voilà comment ça bouge dans l'Église. Voilà comment le salut des païens est assuré parce que l'Éternel visite son peuple. Ainsi, l'évangélisation fructueuse est d'abord et avant tout le fruit d'une vie brisée et réveillée. Cela commence par moi. Evan Roberts l'avait dit ce soir-là, en 1904. Avant de s'adresser à ces 17 personnes, dans l'intimité de Dieu brisée, il avait dit au Dieu, « Courbe-moi, courbe-moi. » J'ai lu il y a quelques jours avec beaucoup d'intérêt cette citation d'un général chinois. « Si le monde doit être reconstruit, mon pays doit changer le premier. Si mon pays doit changer, il faut d'abord refaire ma ville. Si ma ville doit être réorganisée, ma famille doit d'abord se reprendre en main. Si ma famille doit renaître, à moi de commencer. À moi de commencer. » Je vous laisserai lire pour votre propre gouverne, comme je l'ai refait ce matin, Osée chapitre 2, versets 16 à 25. Cette vallée d'accord, cette vallée du trouble, cette vallée du péché d'Acan, qui redeviendra pour Israël porte d'espérance. Lorsque Dieu se fiancera tout à nouveau à son peuple, lorsque son peuple le reconnaîtra. Quel beau passage qu'Osée 2, 16 à 25. L'Éternel est reconnu comme l'époux merveilleux. La famine est finie. Le ruisseau de Dieu est à nouveau plein d'eau. Vous lirez pour votre propre gouverne la conclusion du livre d'Osée au chapitre 14. À partir du verset 5, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie aux froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin et du Liban. Éphraïm, fécond, n'est-ce pas? Qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Mais je l'exaucerai. Je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.
Vous savez que ce chapitre 14 d'Osée est peut-être le plus beau chapitre de toute la Bible concernant le retour du rétrograde et la manière dont Dieu veut le bénir. J'ai noté à la fin de mon manuscrit cette merveilleuse parole d'Alice van Berchem dans ce livre non moins remarquable, Cette nuit-là, je choisis Dieu. Elle écrit ceci. Il est un torrent qui sort du sanctuaire, qui fertilise tout sur son passage, qui guérit, qui donne la vie, qui assainit. Si vous êtes déjà entré dans ce fleuve de la grâce jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux, et même déjà jusqu'aux reins, il y a encore une expérience plus profonde, celle de se perdre dans la grâce, d'être submergé, de nager dans l'océan de l'amour de Dieu. Le réveil, reconnaître, rompre, parce que l'on peut revenir. Revenir dans trois dimensions, à Jésus-Christ, à la croix, à notre prochain, pour pouvoir recommencer avec lui par pure grâce. Nous voulons bénir Dieu. Seigneur, nous avons envie, comme jadis, ton peuple, lors du réveil du temps de Néhémie, nous avons envie de nous prosterner devant toi. Tu sais, Seigneur, que nous le faisons dans notre cœur. Notre cœur est à genoux devant toi pour te bénir, te remercier. Oh, merci. Merci pour Bethléem. Merci pour Ephrata. Merci pour Juda. Merci pour Israël. Merci pour la personne bien-aimée de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette invitation continuelle à revenir vers toi. Merci parce que ton Esprit donne la force. Merci parce que le sang de ton Fils Jésus-Christ n'a rien perdu de sa puissance. Merci parce que tu es prêt à restaurer et à donner le repos. De manière à ce que ta joie au Père sois notre force. Bénis, visite, passe parmi nous par le Saint-Esprit. Fais-le simplement, comme tu sais le faire, pour que vraiment, pour peut-être un certain nombre d'entre nous, ce soit un recommencement. Et puis si, Seigneur, nous vivons ces jours-ci dans ta paix, merci de nous aider à repasser continuellement cela dans notre cœur, parce que nous en avons besoin, chaque jour et chaque instant de notre vie. Merci de faire de cette journée de dimanche une journée de fête, même si elle doit d'abord se traduire dans les larmes de l'humiliation. Nous t'adorons, Père, en Jésus-Christ. Amen.